Voilà, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Marc, chapitre 5. L'évangile de Marc, chapitre 5, nous allons faire cette dernière étude dans ce chapitre. Nous avons déjà vu les deux miracles, celui de la femme avec la perte de sang, et ensuite nous avons vu en deux dimanches la résurrection de la fille de Jaïrus. Et là, ce matin, nous allons voir la première partie de ce chapitre. Donc, si vous trouvez cela, comme ça, on pourra lire le récit ensemble. Donc, Marc, chapitre 1, et je vais lire les 20 premiers versets. Marc, chapitre 5, et les 20 premiers versets. Ils arrivèrent sur l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu les fers aux pieds, il avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte : « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu Très-Haut ? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom ?»« Légion est mon nom, » lui répondit-il, « car nous sommes plusieurs. » Une légion, c'est à peu près 6000 soldats dans l'armée romaine. Verset 10. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Et il le leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allaient voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme ils montaient dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. » Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Ce récit est extraordinaire et on pourrait aller dans plusieurs sens. Je choisis de mettre l'accent sur Jésus-Christ. Après tout, on ne peut pas se tromper là quand on met l'accent sur Jésus. Et ce que je veux voir, c'est Jésus et ce que Jésus peut faire. Ça m'intéresse beaucoup moins ce que Satan et ses démons peuvent faire. Je sais que c'est pas bien, donc ça suffit largement. Mais c'est ce que le Seigneur peut faire. C'est là où se trouve la réponse. Quand on conduit sur la route, on ne regarde pas la profondeur du fossé. On regarde les yeux sur la route. Et peu importe si le fossé est profond ou pas. À partir du moment tant qu'on est sur la route, c'est bon. Et donc ici même, gardons les yeux fixés sur Jésus. Mon texte, mon titre, et ça vient de la fin du récit là. C'est cette dernière parole de Jésus à ce démoniaque. Il dit « Va » et puis « Dis tout ce que le Seigneur a fait pour toi. » Il dit « Voilà, tiens une mission, je te donne un travail à faire. Fais tout ce que le Seigneur a fait pour toi. » Voilà, pas plus, pas moins. Premièrement, je veux faire une comparaison entre les solutions des hommes. Pour cet homme, hein, il y a un homme qui est souffrant, un homme qui vit un drame terrible, un homme qui il n'a plus une vie d'homme. Et alors, il y a les solutions que lui apportent les siens, hein, et puis il y a la solution qu'apporte Jésus. Et il y a une grande différence entre les deux. Lorsque on regarde cet homme, eh bien, on comprend très vite qu'il est au-delà des capacités, des pouvoirs de la population locale. Hein. Là, il ne sait plus quoi faire avec lui. Même si il est un des leurs, et quand c'est quelqu'un de chez nous, on fait de gros efforts, on essaye encore plus, parce qu'il est possédé d'un démon, eh bien, il a une force supérieure à la leur. Eux, ils ne peuvent pas quoi faire. Ils ne savent pas quoi faire, ils ne peuvent pas faire, ils ne peuvent pas le délivrer. Qu'est-ce qu'on propose quand on ne peut rien faire? Eh bien, la solution, c'est l'exclusion. On l'écarte. C'est la force. On essaye d'imposer la force. On essaye de le dompter. Et c'est tout ce qu'eux essayaient de faire et puis ils ne réussissaient pas. Mais c'est tout ce qu'ils avaient à proposer. Hein. Donc ces trois mots-là, c'est l'exclusion d'abord. Il n'y avait pas d'autre option sinon qu'il aille habiter dans les sépulcres. Les sépulcres, c'était en fait des grottes dans les falaises le long de la mer. Et donc, c'est là qu'on mettait les corps. Et donc, c'est le seul abri qu'il pouvait trouver. Et c'est tout ce qu'on a à lui proposer. Tu ne restes pas avec nous, tu vas où tu veux, mais c'est l'exclusion. Certainement qu'il avait des moments, hein, ce n'était pas constamment la crise, il y avait des moments de lucidité, des moments calmes, et puis après des moments où il était plus, il se contrôlait plus. Et certainement que c'est pendant ces périodes de calme, eh bien c'est là où on avait profité pour venir lui mettre les chaînes, pour essayer de le maintenir. Mais quand les esprits le saisissaient, alors là c'était impossible qu'ils vivent parmi les siens. On ne pouvait pas partager la vie, et c'était terrible, et ça faisait souffrir tout le monde. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on l'écarte, on le met de côté. Vous savez, ça n'a pas beaucoup changé hein, depuis. On est un peu plus sophistiqué dans nos moyens d'exclure. On a des institutions avec des grands murs, et puis on met les gens là-dedans. Et puis on les là on eh bien il y a des grilles, il y a des murs, c'est protégé, ils peuvent pas sortir. Et c'est comme ça qu'on exclut, c'est parce qu'on sait pas quoi faire autrement. Et c'est l'homme n'a pas de solution pour cette situation. La force, ces hommes avaient essayé d'utiliser la force, ils avaient essayé de mettre des chaînes, mais bien sûr ça n'a pas suffi. Même avec les chaînes, quand la crise arrivait, il arrivait à se libérer. Et certainement, il se faisait beaucoup de mal en essayant de se libérer. Et donc, toutes ces plaies, tout cela est là dans son corps, les marques de sa souffrance sont là. C'est une scène terrible et triste. De nos jours, eh bien, on emploie la force autrement, on ne met pas des chaînes. Bon, il y avait une époque où on mettait des chaînes sur ce genre de personne, mais maintenant on ne met plus les chaînes, on a des piqûres, Et on a des doses assez fortes pour pouvoir calmer la personne. Mais c'est toujours la force. On impose. On soigne rien, on guérit rien. C'est seulement... on neutralise. Et c'est le même problème. Et l'homme est tout aussi impuissant devant cette force-là. Il dit, ils ont essayé de le dompter. Et peut-être qu'ils se sont sautés dessus à 4 ou 5 pour le tenir, et toutes sortes de choses. On essaye, même encore de nos jours, on essaye. Mais, vous savez, ça n'arrange rien. Et ça, ce n'est pas une solution. Et on ne sait pas comment traiter. Pourquoi ? Parce que, un, peut-être qu'on ne reconnaît pas l'origine du mal. Et deuxièmement, on n'a pas les moyens d'intervenir sur l'origine de ce mal et cette souffrance. L'être humain, de lui-même, ne peut pas intervenir. Et donc, on n'est pas là pour accuser ce qu'il faisait, parce qu'on ne peut pas faire mieux aujourd'hui. On le fait un peu plus, de manière plus civilisée peut-être, mais c'est toujours la même chose. On n'a pas une solution. La personne souffre tout autant qu'à l'époque. Et puis, pour d'autres problèmes, eh bien, qu'est-ce qu'on propose pour ceux qui n'arrivent pas à contrôler leur passion ou leur pulsion, eh bien, qu'est-ce qu'on a ? On a des bâtiments avec des barreaux et puis on les enferme là-dedans. L'exclusion, la force, parce qu'on ne sait pas régler le problème. On a des institutions psychiatriques. Pour ceux qui souffrent de l'âme et on ne sait pas comment l'aider, alors on les parque dans ces bâtiments. Et puis pour d'autres, pour essayer de contrôler la société, on a des religions très fortes qu'on impose sur les gens et on essaye de contrôler de cette manière-là. On ne sait pas régler le problème qui est au fond du cœur de l'homme. Et donc, on a trouvé toutes sortes de manières de pression pour essayer de dompter, d'obliger tout le monde à faire exactement pareil. Et ça ne règle pas le problème. C'est pour ça que le problème existe encore aujourd'hui. Et dès que vous ne vous conformez pas à ce que la société veut, eh bien, on a des corps organisés qui ont des uniformes qui viennent et qui interviennent pour vous imposer le comportement normal. Mais c'est toujours par la force, c'est toujours par l'exclusion, c'est pour l'éloignement, c'est l'enfermement, c'est tout ce qu'on sait faire. Ou bien on assomme avec des doses. Et l'homme n'a pas, se trouve carrément impuissant devant, quand c'est le cœur de l'homme, le méchant dans le cœur de l'homme qui s'exprime, quand c'est ses pulsions qui arrivent, quand c'est les forces démoniaques qui agissent, on ne sait pas quoi faire, on est impuissant. Et finalement, et ça, c'est autour de nous, bon, bien plus qu'on le pense. On arrive à cacher, on arrive à camoufler, on arrive à traiter pour ne pas trop le voir. Et donc, on se promène le long de la mer, là, à Fréjus, ça a l'air, les gens ont l'air d'être assez bons. Mais sinon, dans la région, comme partout, on a de sérieux problèmes. Donc, on est impuissant. La société, l'être humain, la médecine, la police, on est impuissant pour contrôler tout un pan de notre société. Il y a une partie des gens qu'on ne sait pas quoi faire avec eux. Et c'est eux qui font les informations, c'est eux qui vont... Mais c'est exactement pareil, c'est ce qu'il y avait à l'époque de Christ, c'est encore aujourd'hui. Et la solution, elle n'est pas chez les hommes. Et on peut avoir des philosophes qui donnent des théories, mais les théories, c'est très bien, mais ça ne change rien. Le problème, il est toujours là. Et ce n'est pas pour dépeindre une situation noire, mais même tout à l'heure, le frère nous parlait de justement l'utilité de la grâce de Dieu qui peut intervenir. On en a vraiment besoin. On a besoin de cette grâce de Dieu. Heureusement que Dieu est là. Et heureusement d'ici, dans cette situation, que Jésus était là. Et donc... Après avoir, et je ne vais pas aller plus loin, je pense qu'on a compris cette situation et les solutions de l'homme, finalement, ils ne répondent pas aux besoins. Et si ça avait continué comme ça, eh bien, l'état de cet homme ne serait jamais amélioré. Mais heureusement, Jésus est venu. Jésus arrive sur la scène. Et c'est ça qui est très important. Et Jésus est sur la scène encore aujourd'hui, hein, même si on ne le voit pas de nos yeux, mais il est présent et il peut intervenir. Donc dans les versets 6 à 13, nous voyons l'intervention de Jésus. Vous savez, lorsque je regarde dans le chapitre 4 et au verset 35, c'est ce qui arrive, hein, la veille de l'arrivée de Jésus dans ce territoire. Et regardez au verset 1, il dit ce même jour, sur le soir, Jésus dit, passons sur l'autre bord. Peut-être le soir là, les disciples n'ont pas pensé à quelque chose, ils disent, bon, je ne sais pas pourquoi il veut aller de l'autre côté, hein, mais apparemment il veut aller de l'autre côté. Mais maintenant que nous savons ce qui se passe le lendemain, on se dit, mais peut-être savait-il, peut-être même est-ce qu'il a fait exprès. Et peut-être même qu'il a traversé, ce soir-là, il a traversé, c'est pour rencontrer cet homme. Parce que dans l'esprit de Dieu, cet homme-là, peut-être dans la société, excusez-moi, mais ce qu'on disait avant, il disait, c'est un fou, on ne sait pas quoi faire avec. Mais pour Jésus, c'était un être humain. Et c'était un être humain pour qui il allait se déplacer. Et Jésus dit, passons à l'autre bord. Vous lisez cette traversée de la mer et ce n'est pas fait facilement. Au début, l'eau est calme, Jésus s'installe à la poupe de la barque, sur un coussin, et il s'endort. Il est fatigué, il s'endort. Et c'est un sommeil profond. Et tout d'un coup, vous voyez là, il dit verset 38, verset 37, il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. C'est la seule fois de toutes les traversées de Jésus, et puis il y en a eu des tempêtes, c'est la première fois qu'il parle d'un tourbillon. Il y a eu des vents, il y a eu des mers agitées, mais là c'est la première fois qu'il y a un tourbillon. Et ce tourbillon a l'impression qu'il vise cette barque de Jésus et il veut la remplir d'eau, la faire couler. Et je ne peux pas prouver cela, hein, mais je me demande si ce n'est pas déjà les forces malignes qui déjà veulent empêcher Jésus de venir. Parce que cet homme représentait quand même quelque chose de puissant. Et il arrivait à contrôler tout un territoire. Et là, Jésus... Et Satan sait des choses que nous ne savons pas aussi, hein. Mais peut-être qu'il le voit venir, et il veut l'empêcher, il veut le faire couler. Mais bon, Jésus, tu savais, il n'est pas trop préoccupé par cela, il dort lui. Il nous dit au verset 36, et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et dirent, maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Ça, c'est des gens, il y en a plusieurs là-dedans, c'est des pêcheurs de poissons, d'expérience. Mais là, ils savent que ça, c'est une tempête, pas comme une autre. Et ils savent que celle-là, il va les faire couler. Et il dit, mais maître, et lui, il est là. Vous savez, ils ne le connaissent pas encore. Mais Jésus ne craint pas, hein, craint pas. Et normalement, quand on appartient au Seigneur, on ne craint pas non plus ses forces. Parce que lui prend soin de nous. Bien sûr qu'ils sont là. Le vent souffle. Mais Jésus s'étant réveillé, verset 35, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Vous savez que même si le vent s'arrête, la mer, elle n'est pas calme tout de suite. Hein. Il y a deux, trois jours, la mer était très agitée ici. C'est pas parce que le vent arrêtait que tout d'un coup, il n'y avait plus de vagues, hein, que c'était comme de l'huile. Pas du tout. Mais là, quand Jésus a dit « Arrête », tout s'est couché. C'était une force sur la nature que nous n'avons pas. Et bien sûr que verset 41, il nous dit, ils furent saisis d'une grande frayeur. Et puis il dit, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Là, ils ont dit, wow, ça, on n'a jamais entendu parler de ça. Et c'est pas étonnant. Et Jésus, lui, il n'a jamais paniqué dans la situation. Et si nous sommes entre les mains du Seigneur, peu importe d'où vient l'attaque, que ce soit la nature, que ce soit là, vous savez, je suis entre les mains du Seigneur. Et je dois. C'est pour ça qu'il est bon de toujours vivre en règle avec le Seigneur. Hein? D'avoir tout le temps le péché confessé, tout ça, parce que, comme disait quelqu'un de récemment, là, il a dit qu'il était dans l'avion, et puis l'avion est tombé sur un gros trou d'air. Tout d'un coup, wouh! Et là, on a vite envie de confesser les péchés rapidement, et puis de mettre les choses en règle, et tout ça, hein, quand ça arrive. Mais, il faut avoir les choses en règle tout de suite. Comme ça, on n'a rien à craindre. On dit, bon, ben, si c'est le moment de partir, ben, on va y aller. Je suis prêt. Hein? Et là, c'est... Donc, voilà ce qui se passe. Et après, donc, tout est calme. Et puis, Jésus arrive. Et à peine arrivé, cet homme arrive en courant vers lui. La première chose que je propose, c'est que Jésus s'est déplacé pour venir pour cet homme-là. C'est le seul qui était là. Il n'y avait personne d'autre. Il vient pour lui. Jésus donne de l'importance, comme Jésus donne l'importance à n'importe qui. Et peu importe l'état dans lequel vous êtes, peu importe ce que vous avez pu faire, même si personne ne le sait, Jésus donne de l'importance. Hein? Même si les hommes ne pensent pas, on ne pèse pas lourd chez les hommes, et on n'est pas tous traités pareil, et on n'est pas tous soignés pareil, et on n'est pas tous, bonjour monsieur. Et c'est vrai, c'est la vie. Et c'est pas la peine de se démonter pour cela, parce que c'est comme ça. Mais Jésus, pour lui, chacun est important. Et en fait, qui est-ce qui va bénéficier de tout ce trajet, la tempête, tout ça qui va... Il y a pour un seul homme. Dans tous ces récits, il n'y en a qu'un seul qui va profiter, qui va bénéficier. Et Jésus dit, moi je suis prêt à me déplacer pour un. N'importe lequel d'entre nous. Vous savez, on peut aller jusqu'au point de dire, Jésus-Christ serait mort sur la croix pour n'importe lequel d'entre nous, même si on était le seul. Tellement nous avons de l'importance à ses yeux. Parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. Cet homme est précieux. Oh, il n'était pas beau. Vous pouvez imaginer, vu tout ce qu'on a lu sur ce qui lui est arrivé, ce qui se passait, ça ne pouvait pas être beau. Mais Jésus ne regarde pas à ce qu'on est, il regarde à ce qu'il pourra faire de nous. C'est ça. C'est ça une grande souffrance dans notre monde aujourd'hui, c'est que les gens regardent ce qu'ils voient. Et donc, c'est pour ça qu'on fait de grandes dépenses, on fait toutes sortes de choses pour se rendre aussi présentable que possible. Hein? On arrive même à mettre un masque de maquillage, rien que pour être présentable, pour être bien reçu, pour répondre à l'attente des gens. Mais, vous savez, Jésus, il dit, il ne regarde pas, il dit, je dis, ce que je vois déjà, bon, le masque, je vois à travers, mais il dit, ce n'est pas ce que tu es aujourd'hui, c'est ce que je peux faire de toi qui m'intéresse. Et cet homme, Jésus vient vers cet homme et certainement, on pourrait le décrire et je ne vais pas le faire parce que ça ne sera pas assez laid, je n'oserai pas de le faire. Mais en fait, chacun d'entre nous, dans notre état naturel, avec notre péché, on n'est pas plus beau qu'il ne l'était devant Dieu, aux yeux de Dieu. Autant on peut paraître beau auprès des hommes, mais quand on arrive avec notre péché devant Dieu, ce n'est pas plus beau que ça. On n'est pas meilleur. Et le fait que Jésus se déplace pour cet homme-là, je sais qu'il peut me recevoir. Et alors, Jésus dira dans Jean chapitre 6, il dit, tout ce que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. C'est Jean chapitre 6, verset 37. Jésus vient pour eux. Et vous savez ce que Jésus fera de cet homme ? Il fera de cet homme un témoin de ses capacités. Vous savez, c'est extraordinaire avec Dieu. Dans le monde, on aime bien trouver des gens qui sont déjà éduqués, qui sont gentils, qui sont beaux, qui ont ceci, cela, présentables, ils sont jeunes et tout ça. Et puis on essaie de faire quelque chose avec eux. Hein, donc il y a de l'embauche pour ces gens-là. Mais Jésus dit, non, moi, j'aime bien prendre les pires cas et j'aime les transformer parce que ça montre un peu de quoi je suis capable. Et vous savez, le Seigneur fait cela. C'est ça qui est différent de la pensée de Jésus. C'est pour ça qu'il est important pour nous, même en tant que chrétien dans l'Église, on a besoin d'apprendre à penser comme Jésus. Et quand quelqu'un rentre, on voit cette personne comme Jésus la voit, pas comme on a l'habitude de voir sur le trottoir. Et c'est vrai, c'est difficile pour nous, même en tant que chrétien, de ne pas être marqué et influencé par les opinions du monde et de voir comme le monde. Mais on doit voir chacun, et chacun est précieux. Il nous dit que quand les choses se passent, et puis je ne vais pas rentrer dans le détail de comment ça s'est passé, et puis ce que je veux voir, c'est ce que l'œuvre de Jésus. Et alors, il nous dit au verset 14, donc Marc chapitre 5, verset 14, il nous dit, ceux qui faisaient paître s'enfuir, ils répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes, les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Les gens viennent voir. J'ai un soupçon qu'ils sont plus venus pour voir où sont passés leurs couchons que de voir ce qui était arrivé à cet homme. Parce que certainement que c'était, tout le monde avait, celui-là il avait 5 cochons, l'autre il avait 10, l'autre il avait 50, et tout ça. Et puis après il a mis tous ensemble et on confié à des gardiens. Hein, donc les cochons là, les 2000, mais ils appartenaient à plein de monde dans la ville. Et donc, c'est sûr que quand tu as le gars, il a des actions dans une société, et s'il voit couler la société, il pense à ses actions à lui, même s'il en a 3. Hein. Je me rappelle, il y avait une époque où, quand Orange est passé la première fois et a vendu des actions, tout le monde en a acheté. Ils avaient fait une telle publicité, et tout le monde y en avait. Moi, j'en ai acheté 2, l'autre, il y a 5. Bon, c'est pas ça qui fait flotter les choses, mais après, quand ça a commencé à baisser, j'ai dit, mes actions, j'ai acheté pourtant, et maintenant, ça vaut moins. Oui, ben là aussi. Et même celui qui avait qu'un seul cochon dans le troupeau, ben, il est venu pour voir si c'était pas son cochon qui était parti. Mais on est plus préoccupé par ce qui est arrivé à notre bien que de penser au bien de cet homme, qui était un des leurs. Il était de chez eux. C'est pas un étranger, c'était un de chez eux. Et qu'est-ce qu'il trouve ? Et verset 15, ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Ça paraît, il y a 3 mots. Assis, vêtu et dans son bon sens. S'il l'a dit comme ça, c'est parce que avant c'était le contraire. Hein, si ça a été comme ça, c'est parce que en fait d'habitude il était ni assis, en train de courir dans les montagnes, en train de crier. Il était ni vêtu et puis surtout pas dans le bon sens. Hein, c'était ça les éléments nouveaux. Et on aurait pensé, on aurait dit, waouh, mais bon, il devrait être content de le trouver comme ça. Il dit, mais c'est formidable, c'est merveilleux. Et, bon, tant pis pour les cochons, hein, mais c'est toi. Pensez, bon, et vous connaissez le monde d'aujourd'hui, il n'a pas changé non plus. Hein. Vous sortez de l'hôpital, vous êtes guéri, vous êtes tout content, puis le monde y continue. Hein. Et Jésus n'a ni enchaîné, ni est-ce qu'il a menacé, ni rien du tout. Il a donné des ordres aux démons de sortir, mais l'homme, il l'a laissé venir. Il l'a laissé venir. Et Jésus, l'invitation est toujours là. Jésus dira dans Matthieu 11, versets 28 à 30, il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Cet homme, regardez-le, assis, vêtu et dans son bon sens. L'état qui est tout à fait normal pour un corps humain. C'est ça, ça c'est l'état de repos pour un corps humain. Et il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Il dit, les hommes, quand ils commencent à vous donner des règles, même dans une église évangélique, ils commencent, ça devient lourd. On ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ça comme ça, et puis ceci, mais il faut... Il dit, mon joug est doux, mon fardeau léger. Il dit, vous trouverez du repos pour vos âmes. C'est-à-dire, vous trouverez de la consolation, vous trouverez de la paix. Vous trouverez... Quand l'âme est en paix, le corps se sent mieux, n'est-ce pas? Hein? Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Pourquoi il est léger? Parce que c'est lui qui le porte. Et Jésus... C'est ça, c'est ce qu'il fait pour cet homme. Il le prend tel qu'il est. Les forces qui s'imposent sur cet homme, il en délivre. Et pour chacun d'entre nous, il n'est pas obligé d'être possédé d'un démon pour souffrir. Des fois, ce sont des habitudes qu'on n'arrive pas à se défaire. Des fois, c'est des passions. Des fois, c'est des relations. Des fois, c'est des... Il y a toutes sortes de choses. Chacun de nous avons notre problème, vous savez. Mais dit, viens à Jésus, viens, et lui te donnera, il te mettra dans une situation où on dira, assis, vêtu, dans le bon sens. Et c'est ce que le Seigneur veut apporter, et Jésus s'est déplacé pour cet homme-là. Il va être chassé, il va être mal reçu, il va repartir, mais pour cet homme-là, il s'est déplacé. Bon, ce qui est étonnant, c'est, après je veux voir les réactions de ces hommes, hein, qu'ils viennent, et puis bien sûr, les cochons ils sont en train de flotter dans l'eau, et ils trouvent cet homme là, cet homme qu'ils avaient essayé d'enchaîner, cet homme qui criait la nuit, les gens ils avaient peur de partir pendant cette région là-bas parce qu'on ne savait pas ce qu'ils pouvaient faire. Et autant nous sommes émerveillés par la délivrance totale de cet homme, autant la réaction des siens nous surprend. Parce que eux, qu'est-ce qu'ils vont trouver à dire? Verset 17. Alors, ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Vous vous rendez compte? Ils disent, wow, quelqu'un comme ça qui est capable de transformer cet homme-là, il pourra nous aider tous. Et on en a notre problème. Qu'est-ce qu'ils font? Part. Et nous dit même, ils furent saisis de frayeur. À la fin du verset 15, ils furent saisis de frayeur. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait peur? Ce n'est pas tellement le fait que l'homme soit guéri, je pense. Vous savez, normalement, c'était une population qui devait être juive par là-bas. Mais apparemment, ils s'étaient écartés de la loi de Moïse, ils ne la pratiquaient plus, et donc ils élevaient des cochons pour faire du commerce avec les païens. Donc c'était des gens qui avaient... Et alors de voir Jésus, tout d'un coup, ça, à la conscience, elle commence à piquer. Et alors c'est une question de... Bon, on change de mode de vie, ou bien on se débarrasse de Jésus. Vous savez, c'était là le vrai problème. C'était pas qu'ils n'étaient pas contents pour cet homme. C'est qu'ils savaient que la présence de Jésus là, eh bien, ça allait perturber leur vie. Et comme encore aujourd'hui, hein, vous commencez à leur parler de Jésus et tout ça, ils disent bon, 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 bon. Autant on dit La France est un pays laïque. On peut discuter de n'importe quoi. Eh oui, sauf Dieu. Ça ne m'intéresse pas. Et là, Jésus dérangé, sa présence dérangée. On ne veut pas en train de parler, ne prononce ni son nom, ni parle de lui, ni rien du tout. Voilà. On ne te fait pas de mal, mais pars. On ne te veut pas dans notre pensée, on ne te veut pas dans notre vie, on ne veut pas te voir. Parce que quand on te voit, ça rappelle des choses, donc voilà. Combien sont ceux qui s'éloignent? Ils ont peut-être connu le Seigneur et s'éloignent parce que si on reste près du Seigneur et sous l'écoute de la parole, il faudra mettre de l'ordre et ça gêne, c'est dérangeant. Et donc, c'est pas qu'on n'aime pas le Seigneur, mais bon, on ne veut pas changer de mode de vie. Il faudra faire d'autres choix. On ne pourra pas faire les choix qu'on a envie de faire. On ne peut pas avoir... j'ai envie de faire ces choses-là, et puis si je marche avec le Seigneur, ça ne marche pas. Donc, Seigneur, écoute... je t'aime bien, mais écoute, je vais de mon côté, tu vas de ton côté, et puis avant de mourir, je reviendrai. C'est un peu ce que fait le fils prodigue, n'est-ce pas? Il dit, il est toujours à la maison, toujours. Il a dit, papa, toujours au travail, toujours les champs, toujours. Puis il y avait le grand frère, je pense que le grand frère était pénible aussi. Donc, il veut partir. Il dit, écoute, donne-moi mon argent et je pars. Tu me dois rien, je te dois rien. Je prends ton argent, c'est tout. Et il s'en va. Et il a ce rêve, il partir en Amérique. Il va devenir riche. Mais l'Amérique, c'est pas le Pérou, comme on dit en français. Je sais pas d'où vient l'expression, mais en tous les cas. Mais ça réussit pas. Et en plus... il y a une famine là-bas, donc ça ne l'arrange pas. Et qu'est-ce qu'il fait? Il rentre, il revient chez son père. Il revient chez son père. Et son père n'a pas reçu comme un homme reçoit. Son père a reçu comme Dieu reçoit. Il dit, mon fils, je suis content de pouvoir revenir. Le grand frère, il a réagi comme les hommes réagissent. Mais le père, il n'a pas réagi comme les hommes réagissent. Et le père, il l'a embrassé tout de suite, même avant qu'il prenne le bain. Il sentait encore le cochon. Et il l'a embrassé. Il l'a amené à la maison, il a fait la fête. Et ils ont... bien sûr qu'il a changé ses vêtements, mais après l'avoir embrassé. Vous savez, on vient au Seigneur, on n'attend pas d'avoir mis la vie en ordre pour venir au Seigneur. On vient au Seigneur tel qu'on est. Et après, il met la vie en ordre. Une fois qu'il nous a embrassés, après on peut commencer à mettre la vie en ordre. Et voilà, malheureusement, ces gens le renvoient. Mais c'est même la manière dont c'est dit, c'est ça que j'ai trouvé intéressant. Ils se mirent à le supplier. Ils se mirent à supplier Jésus de quitter. On dit ça, c'est parce qu'on a quelqu'un qui n'a pas envie de partir. Quand on supplie quelqu'un, ça veut dire qu'il n'a pas envie de partir. Si c'est quelqu'un qui a envie de partir, on dit, écoute, tu peux partir. Mais là, on le supplie de partir. Il n'avait pas envie de partir. Jésus voulait être là. Jésus veut continuer en œuvre et on ne le veut pas. Vous savez, des fois, on a l'impression que Jésus supplie avec nous aussi. Il dit, écoute, je veux ton bien, je t'aime, je veux... Va pas dans ton sens, viens. Mais on lui dit, non, je ne veux pas, j'en s'entête, pars de ma vie. Donc il part. Et là, il est parti. Mais je vois même dans le fait qu'il n'est pas parti et qu'on a dû supplier de partir, je vois la grâce de Dieu. Là, je vois Dieu qui dit, non, mais tu sais, mon amour, il est fort. Si Jésus était un homme, il aurait dit, c'est comme ça que vous dites merci. Je ne reviens plus jamais. C'est ça le langage des hommes. Voyez si je... Et heureusement pour vous, vous avez de la chance si je ne vous envoie pas des ennuis. Mais lui, il part. Mais sa grâce, encore une fois, à la voix. Parce que cet homme qui vient d'être guéri, je trouve tout à fait normal, hein, Jésus vient de lui donner une autre vie, hein. Vous savez, ce n'était pas juste une question d'être assis et vêtu, tout ça, mais maintenant il va vivre une autre vie, dans un autre endroit, il va pouvoir s'épanouir, il y a plein de potentiel extraordinaire pour lui, qu'il n'y avait pas avant. Et c'est normal que Jésus l'a aidé, ben c'est normal qu'il suive Jésus, il a envie de rester avec Jésus, il n'y a rien de plus normal. Mais vous savez, Jésus n'a pas, en passant entre parenthèses, ça c'est une prière où Jésus dit non. Hein. Cet homme dit, Seigneur, laisse-moi venir avec toi. Et il dit non, tu ne viens pas. Vous savez, des fois, Dieu répond non à nos prières. Pourquoi? Parce qu'il a un projet. Il a dit non, j'ai besoin de toi ici. Ils ne veulent pas de moi, mais toi reste. Et c'est toi qui leur diras tout ce que le Seigneur a fait pour toi. Et tu fais un travail. Et des fois, c'est sûr que c'est parfois, le Seigneur dit, hein, écoute, tu restes dans ta famille, reste là, parce que tu as un témoignage à porter, sinon on n'a pas accès. Moi, je n'ai pas accès. Le pasteur, il n'a pas accès dans les maisons des familles des uns et des autres et tout ça. Mais ce membre de la famille qui connaît le Seigneur, il a accès. On ne peut pas l'empêcher de venir. Et le Seigneur dit, non, reste. Mais n'oublie pas de dire tout ce que le Seigneur a fait pour toi. Il dit, tu n'as rien à inventer, ne dis pas de mensonges, n'exagère pas, ni rien du tout. Dis seulement ce que le Seigneur a fait pour toi et tout ce que le Seigneur a fait pour toi. Et encore, on peut dire, l'homme, il ne savait pas encore tout ce que le Seigneur avait fait pour lui. Mais il commence avec ce qu'il sait, hein, nous tous. Et donc au verset 19, il dit « Va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. » Il parle de la grâce de Dieu. Et dans un sens, dis-leur combien, dans quel état tu étais et comment il est venu vers toi et t'a aidé. Et dis-leur que ce serait pareil pour eux. Il dit « C'est ça le message. » Et c'est ça le message de l'évangile, et c'est ça le message, et c'est ça qu'on est en train de dire ce matin. C'est, dis-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi. Remarquez que, on retrouve les versets 19 et 20, vous comparez les deux, il dit, va raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi, et on dit, ça c'est Dieu, hein, c'est, bien sûr c'est Dieu qui a fait l'œuvre, mais au verset 20 il dit, il s'en alla, il se met à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Il y en a parmi nous, ici dans notre région, qui veulent pas, pour eux, Jésus et Dieu, c'est deux. J'ai eu un monsieur et une dame qui sont frappés à la porte, là, il y a 2-3 semaines. Et bien sûr, ils voulaient me faire comprendre la Bible autrement. Je ne sais pas s'ils sont mal tombés, mais en tous les cas, Ils ont parlé, et puis je crois que c'était ça devait être un ancien, c'était un homme qui avait. Il était calé, lui. Alors, j'ai senti qu'il était calé, mais bon. Et puis après, il y a un moment, on arrive sur justement. C'était sur la question du Saint-Esprit. Parce que ces témoins de Jéhovah, ils disent que le Saint-Esprit, c'est une force. Et alors que dans la Bible, c'est une personne. Alors il dit non, le Saint-Esprit c'est une force. Je dis ah bon, alors ce verset là, et puis ce verset là, j'ai commencé. Et puis très vite il a dit bon, écoutez, on a assez discuté, là on va y aller. Et la dame qui était avec lui, elle voulait causer parce qu'elle avait été enseignée, elle était armée, elle voulait y aller. Elle a dit non, mais c'est ça. Lui il dit non, on va y aller. Et vous savez, la parole de Dieu, elle répond. On peut répondre. Et on dit là. Là, justement, en passant comme ça, tout simplement, juste là, il dit, le Seigneur et Jésus, c'est la même personne. C'est la même personne qui a œuvré chez l'un et chez l'autre. C'est partout dans la Bible. Ils essaient de me dire, mais non, mais c'est pas... J'ai dit, non, mais c'est clair dans la Bible. C'est dans l'esprit de la Bible. Et j'aime bien comment ça termine, parce qu'il dit, et tous furent dans l'étonnement. Bon, ça ne suffit pas pour être sauvé. Hein. Mais au moins, ils ont remarqué que quelque chose s'était passé chez cet homme-là. Et vous savez, on ne peut pas demander plus au monde que de remarquer. Je connais un frère algérien qui est venu au Seigneur et Bon, il avait de gros problèmes, surtout psychiques. Et toute la famille en souffrait. Toute la famille en souffrait. Et en plus, c'était l'homme de la maison. Donc la souffrance était d'autant plus grande. Mais il a rencontré le Seigneur, il a trouvé l'ordre et il va bien, il est plus sous les soins, il va plus dans cette institution-là pour être traité. Et je sais, j'ai parlé avec les enfants. Aucun des enfants n'a reçu le Seigneur encore, mais ils sont obligés d'admettre, ils disent c'était bien pour mon père. Ils disent mon père, il a trouvé une bonne chose. Ils étaient obligés de le dire. Parce qu'ils voient la différence entre maintenant. Maintenant, c'est pas seulement qu'il essaye de vivre et puis qu'il est, mais c'est que il a des projets, il vit une autre vie parce qu'il a rencontré le Seigneur. Et on peut pas demander plus à la famille de noter qu'il y a un changement et qu'on va mieux. Ça, ils peuvent pas le nier si c'est vrai. Dis-leur, et tout ce qu'on leur dit est écoutez, le changement, vous l'avez remarqué, moi je vous dis que celui qui a fait le changement, ben, c'est le Seigneur Jésus. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais moi, je vous dis que c'est le Seigneur Jésus. C'est tout ce que cet homme a fait. Jésus a dit, écoute, je te laisse seul, mais va dire au monde ce que le Seigneur a fait pour toi. Et vous savez, c'est ce qu'on a encore aujourd'hui. C'est ce qu'a fait la femme samaritaine hein, dans Jean chapitre 4, et je vais terminer avec cette lecture-là. Jean chapitre 4. Jésus rencontre cette femme samaritaine près du puits, lui parle, ça vient, ça part, et puis Jésus a même touché des points sensibles dans sa vie. Et il y a un moment, elle comprend que Jésus, c'est le Messie. Et elle croit. Et alors, il nous dit, en Jean chapitre 4, verset 29, il dit, verset 28, dit, alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ? Cette femme qui se cachait pour qu'on ne sache pas ce qu'elle faisait, elle dit, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Je dis, wow, pour qu'elle parle comme ça, déjà, ça veut dire quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé chez elle? Et donc, ils sont venus en courant pour voir cet homme. Et au verset 39, donc il nous dit, plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent, le trouvèrent et le prièrent de rester auprès d'eux, et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole et disaient à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Oui, mais elle a fait. S'ils étaient là, c'est parce qu'elle a fait son travail. Hein? Elle, c'était la personne clé qui les a amenés du village jusque-là. Après, ils ont entendu Jésus, ils ont dit, ah, bon, à cause de ton témoignage, on est venu l'écouter. Mais maintenant qu'on l'a écouté, ça change notre vie. Ben, c'est tout ce qu'on peut faire. Hein? C'est, vous lisez dans les Actes des Apôtres, quand l'apôtre Paul a l'occasion de se lever, de se défendre, il commence toujours par son témoignage. Parce qu'un témoignage, ça ne se discute pas. C'est ce qui m'est arrivé. J'étais comme ça et voilà ce que je suis maintenant. Et après, on ajoute, et c'est Jésus qui l'a fait. Tout. Mettez toujours la signature de Dieu. Comme ça, ils ne vont pas dire, oh, ben, ouais, il avait la force de caractère et ceci, ceci. Parce que les gens du monde, ils aiment bien expliquer sans Dieu. Hein, ils cherchent toutes sortes d'explications. Il faut beaucoup de foi parfois pour comprendre les explications. Parce qu'ils essaient de contourner Dieu. Mais. Non, non, mettons Dieu, qu'il le veuille ou pas, nous on dit c'est Dieu. Je me rappelle, et je termine, hein, parce que là, je commence à raconter des histoires, hein, je ne m'arrête plus, moi. J'en cumule depuis 60 ans, alors ça va. Il y avait à Saint-Denis, il y avait un voisin, là. Après un certain temps, on était là, puis un jour, il me trouve, j'étais un peu à l'avance, et il me trouve, et il me dit, écoutez, monsieur le pasteur, comment vous faites? Je dis, faites quoi? Il dit, comment vous faites? Je dis, oui, pourquoi? Il dit, moi je vois, j'observe là, c'était le voisin, hein, et puis il voyait d'en haut, il voyait les gens qui venaient à l'église. Il dit, comment vous faites tous ces gens? Je vois des gens de toute nationalité, de toutes sortes, ils viennent là, ils sont contents d'être ensemble, ils s'entendent bien, et moi j'ai l'impression que ça se passe bien. Il dit, comment vous faites? Je dis, ben, c'est Dieu. Il dit, oh, non, non. Il dit, non, non, mais vous faites comment? J'ai dit, mais c'est l'œuvre de Dieu. Il dit, non. Je dis, écoutez, bon, que vous acceptez ou pas, mais pour moi, c'est l'œuvre de Dieu. Il dit, parce que moi, avant, j'étais un gradé dans la Légion étrangère. J'avais des hommes de tout partout. Il dit, qu'est-ce qu'on avait comme problème? Nous, on ne réussissait pas. Et vous, comme ça, vous n'avez rien du tout, et vous les mettez en prison, vous ne faites rien du tout. Et ils sont gentils, ils sont contents d'être ensemble. J'ai dit, monsieur, que vous ne le vouliez pas, c'est Dieu. Il dit, bon, ça va. Puis il est parti. Mais il a constaté l'œuvre de Dieu. Ce qui ne se fait pas, et c'était un gars qui était bien placé pour savoir que normalement ça ne se fait pas, et l'a vu se faire. Vous savez, Jésus est allé, il a traversé la mer, il a essuyé une tempête, et il arrive à cet homme, il trouve un homme dans un piteux état, il fait une œuvre dans cet homme, tout ça pour avoir un témoin dans cette région. Et chacun d'entre nous, nous sommes des témoins quelque part. Maintenant, ou je parle de ce que le Seigneur a fait pour moi, ou je ne parle pas. Mais chacun de nous avons accès à des endroits et à des personnes auxquelles personne d'autre a accès. Que le Seigneur nous aide. Deux choses. Peu importe l'état dans lequel on se trouve, Jésus peut me transformer. Il me prend là où je suis, dans l'état où je suis, même si c'est moi qui me suis mis là-dedans. Il me prend, il veut faire. Il dit, laisse-moi faire. Deuxièmement, il dit, après, je veux que tu sois un témoin de ce que j'ai pu faire. C'est tout, je ne te demande pas plus. Prions.